À quoi sert l'exégèse ? L'exégèse est l'étude scientifique d'un texte biblique. Les exégètes de métier possèdent habituellement une bonne connaissance de l'hébreu et du grec, les deux langues dans lesquelles ont été écrits les livres de la Bible, mais aussi des langues dans lesquelles écrivent aujourd'hui bon nombre d'exégètes, notamment l'anglais, l'allemand, l'espagnol. En analysant de près le langage utilisé par l'auteur d'un texte biblique, ils parviennent parfois à des conclusions très intéressantes. Nous allons le vérifier en les suivant dans leur analyse très pointue de deux passages de la première lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe. L'un d'entre eux nous parle des apparitions du Christ ressuscité à ses apôtres, l'autre de l'institution de l'Eucharistie par le Christ pendant le dernier repas qu'il prit avec eux. En regardant de près le vocabulaire et la syntaxe de ces deux passages, on peut s'apercevoir que tout en les écrivant en grec, l'apôtre Paul traduisait deux textes araméens ou hébreux qu'il avait entendus dans sa langue maternelle à Damas. Autrement dit, écrit vers l'an 56, l'année approximative de sa première lettre aux Corinthiens, ces deux passages était le souvenir d'un enseignement que Paul avait reçu en araméen ou en hébreu 20 ans plus tôt, vers l'an 36, peu après sa conversion. On voit aussitôt l'intérêt de la découverte que nous allons faire. Dans ces deux textes, datant approximativement de l'année 56, nous avons accès à un enseignement beaucoup plus ancien, reçu par le jeune converti, moins de 10 ans après la mort et la résurrection de Jésus. C'est donc le plus ancien témoignage que nous ayons de la résurrection de Jésus et de la façon dont il a institué la Sainte Eucharistie. Lisons le premier texte qui se trouve dans le dernier chapitre, le chapitre 15. Je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le jour le troisième selon les Écritures. Il est apparu à Képhas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Comment pouvons-nous savoir que dans ce passage, Paul cite sa catéchèse de nouveau converti ? D'abord, parce qu'il emploie les termes techniques qu'on employait alors pour désigner la transmission d'un enseignement qu'on avait soi-même reçu. Mais aussi parce que Paul utilise un vocabulaire qui n'est pas le sien. « Jésus est mort pour nos péchés », écrit-il. D'ordinaire, Paul emploie le mot « péché » au singulier. Ici, il est au pluriel. Selon les Écritures, « katatas graphas » en grec, ce n'est pas l'expression que Paul utilise d'ordinaire pour citer les Écritures. Il est ressuscité le jour le troisième. Paul sait très bien qu'en grec, l'adjectif ordinal doit se trouver avant le substantif. Pourquoi ici ne respecte-t-il pas la règle ? Et parce qu'il traduit littéralement un texte hébreu ou araméen où la règle est inverse. Il est apparu à Képhas, le nom de Pierre en araméen, puis aux 12. Même remarque, quand Paul parle des 12, il parle habituellement des apôtres. Ici, il parle des 12. La conclusion s'impose. En citant littéralement la toute première catéchèse qu'il a reçue au moment de sa conversion et qu'il a transmise aux fidèles de Corinthe vers l'an 50-51, Paul atteste sans s'en rendre compte que dans les années 36, il y avait déjà à Damas ou à Antioche des hommes qui croyaient à tort ou à raison, que Jésus était ressuscité et qu'il était apparu à Pierre, aux apôtres, à Jacques, etc. Un témoignage fort intéressant puisqu'il nous prouve que la foi des chrétiens dans la résurrection de Jésus est un fait attesté dès les débuts de la prédication évangélique. Tout le problème qu'on est amené à se poser, comment se fait-il que si peu de temps après la mort violente de Jésus, ses disciples aient cru à sa résurrection? De deux choses d'une. Ou bien c'étaient des fanatiques, tellement impressionnés par leur maître qu'ils se sont persuadés qu'il était encore vivant. Et ils ont créé de toutes pièces le mythe de sa résurrection et de ses apparitions. Une hypothèse d'ailleurs fort improbable, vu la rapidité avec laquelle les disciples ont tout de suite cru à la résurrection de leur maître. Ou bien, ils ont été des témoins sincères et objectifs de ce qu'ils avaient vu, et nous verrons ailleurs les signes évidents que nous avons de leur sincérité. On peut faire la même démonstration à propos d'un autre passage de cette première lettre de Paul aux Corinthiens. Le passage où il dénonce l'égoïsme avec lequel les Corinthiens se permettent, après avoir célébré ensemble l'Eucharistie, de manger chacun de leur côté le casse-croûte qu'ils ont apporté, sans rien partager avec leurs voisins. Ce manque total de charité, leur explique-t-il, est en totale contradiction avec l'Eucharistie qu'ils viennent de célébrer. Et Paul en profite pour rappeler comment Jésus a institué l'Eucharistie la veille de sa mort. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ici encore, l'apôtre utilise des mots grecs comme s'ils étaient des mots hébreux. Quand il utilise dans ses lettres le verbe « eucharistein » qui signifie « rendre grâce », c'est toujours pour remercier Dieu d'une grâce accordée à quelqu'un ou à une communauté. Il remercie Dieu pour la foi des Thessaloniciens ou la charité des Éphésiens. Il emploie ici le verbe « eucharistein » de façon intransitive, sans complément, pour désigner la prière d'action de grâce, « beraka », que les Juifs ne manquent jamais de faire au début de leur repas, et que Jésus a si souvent faite sous les yeux de ses disciples, y compris le soir de la scène, tout en rompant le pain. « Je te bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. » Grâce à cet hébraïsme, on s'aperçoit qu'ici encore, Paul traduit littéralement un texte qu'il a reçu au moment de sa conversion. Nous sommes donc en présence d'un texte qui remonte aux toutes premières années des communautés chrétiennes et qui nous prouve que très tôt, nos aînés dans la foi ont célébré l'Eucharistie comme nous la célébrons encore aujourd'hui. On comprend qu'on aime proclamer solennellement ce passage de la première aux Corinthiens dans nos liturgies du Jeudi Saint et de la fête du Très-Saint-Sacrement. J'espère aussi vous avoir convaincu que vous pouvez vous débarrasser des préjugés que vous avez peut-être lorsque vous entendiez parler des exégètes et de leurs travaux. Leurs recherches sont loin d'être inutiles.